J'exerce sur le marché à terme des marchandises.
Quelles marchandises?
Cacao, sucre, soja, etc.
Les produits de première nécessité.
Ah oui, c'est intéressant.
Ça dépend. Ça va, ça vient.
Ça monte, ça descend. Un jour le soleil, le lendemain la pluie, il faut prévoir. Demandez à monsieur Laumont. Tantôt je lui dis couvrez-vous, tantôt va faire chaud.
J'aime pas les noisettes, on s'y casse les dents. Vive les bananes, parce qu'il n'y a pas d'os dedans. J'aime pas les sucettes, les bonbons fondants. J'aime les bananes, parce qu'il n'y a pas d'os dedans.
Il faut manger tous les jours, il faut manger. Il faut courir tous les jours, il faut courir.
Allez, on nous fait croire que le bonheur c'est d'avoir, de l'avoir plein nous.
Ils allument le feu, ils l'activent. Et après, ils viennent jouer aux pompiers.
Oh, on a tout compris.
On nous cache tout, on nous dit rien.
On nous prend, faut pas déconner, déconner. Pour des cons alors qu'on est.
Qu'on ait 20 ans, qu'on soit grand-père. Quand on est con, on est con.
Bonsoir, vous êtes sur Zoom Ecologie, sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3 FM. L'émission commence tout doucement, et nous allons aborder plein de thèmes aujourd'hui, en compagnie de Sophie,
Johan,
et de...
À la technique, Elodie, à la technique.
Elodie à la technique.
Merci Elodie.
Et donc c'est plein de news et informations diverses.
Alors des thèmes, effectivement, on en a des paquets... On pourrait parler de la crise, des dérèglements climatiques, de la déforestation, du nucléaire, des nanotechnologies. Bref, on a pas mal de sujets d'inquiétude.
À et partir de là, il faut rester positif.
Mais on va trouver des choses positives. Je pense qu'il y en a un paquet là dans tout ce qu'on a trouvé. Il y a des lieux pour discuter de ces sujets positifs, un peu plus difficiles d'accès, librement, à l'occasion de conférences. Il y a aussi des expos. Pour attiser un petit peu notre curiosité, nous ouvrir les yeux. Il y a des ouvrages qui nous proposent de voir le monde autrement, d'avoir d'autres perspectives, des films. Bref, il y a de l'activité, il y a de l'actualité. Zoom grand angle aujourd'hui sur l'actualité de l'écologie. Alors, avec des sujets liés à l'écologie entendus d'une manière globale, l'écologie environnementale, sociale, politique, une actualité des acteurs de l'écologie. Je crois que Johan, tu as pas mal d'informations sur les associations, notamment.
Oui, oui, qui se recoupent en général.
On a des propositions de sortie, de lecture, d'écoute, de musique, je crois. Alors, en gros, ça va ressembler à un catalogue à la Prévert. Et en même temps, justement, à l'image de Prévert, on va essayer de changer l'hiver en printemps, puisqu'il nous le proposait dans un beau poème qui s'appelait « Le paysage changeur ».
Joli, joli, joli.
On va commencer ? par des actualités un petit peu générales. Alors d'abord, une actualité qui est tombée aujourd'hui.
Très intéressante d'ailleurs.
Super intéressante. Le monsieur climat de l'ONU a démissionné. C'est un néerlandais, il s'appelait Ivo de Boer, j'espère que je prononce bien. C'était le plus haut responsable de l'ONU chargé du climat. Et il a dit en annonçant sa démission, « Copenhague ne nous a pas permis de dégager un accord clair en termes juridiques, mais l'engagement politique et la direction prise vers un monde à faible émission de gaz à effet de serre ont été clairement énoncés. Cela nécessite de nouveaux partenariats avec le monde des affaires et j'ai maintenant la chance d'y contribuer. » Et qu'est-ce qu'il fait ? Il va devenir consultant chez KPMG.
Limite lobbyiste, donc en gros, ou enfin du moins c'est pas très clair, quoi. Ça me fait penser à une autre information sur les, au niveau de l'Europe aussi, hein, les portes tournantes des hauts fonctionnaires de l'Europe qui passent d'une société, qui passent d'un poste
dans les relations internationales à un poste dans le privé.
Dans le privé, souvent dans le lobby. Et on appelle ça les portes tournantes. C'est une information qui circule actuellement.
Ils ont été de bons lobbyistes, ces pantoufleurs, finalement.
Ah, ils apprennent beaucoup de l'Europe, mais ils le rentabilisent aussi très rapidement.
Ah, ça vaut cher, mon bon monsieur.
Et oui.
Autre info, l'agriculteur, le fameux agriculteur qui s'appelle Paul François, qui a gagné sa cause contre Monsanto devant la cour d'appel de Bordeaux. C'est assez récent, ça se passait le 28 janvier. C'est la chambre sociale de la cour d'appel de Bordeaux qui a reconnu, je cite, qu'il y avait un lien de causalité directe entre les pathologies de l'agriculteur et l'intoxication à l'herbicide Lasso que M. François avait subi le 27 février 2004. Ça a mis du temps pour être reconnu, c'est quand même passé en appel. Voilà, je pense que c'est une bonne nouvelle.
Oui, mais c'est pas fini. Ça me fait penser aussi à une autre info, celle du MDRGF, Mouvement pour les droits et le respect des générations futures, qui a été assigné en justice pour avoir analysé des raisins. Oui, maintenant, quand on touche aux raisins, on est envoyé direct devant le juge, monsieur, et parce qu'ils avaient mis en évidence la trace de toxiques, de pesticides, et ça n'avait pas trop plu au lobby des viticulteurs, on va dire ça comme ça, très généralement, parce que c'est pas si simple, aussi simple, qui les avaient assignés en justice. Et mais, ils ont été déboutés en première instance.
Il y a encore un appel.
Il y a toujours possibilité d'appel. Je sais pas s'il y a eu appel. Mais ils ont été déboutés, et c'est une bonne chose, parce que maintenant, en France, jusqu'alors, on n'avait plus le droit de dénoncer, je ne sais pas si c'est le terme exact, ou du moins informer sur la présence de pesticides dans des produits courants de consommation, comme le vin, qui quand même a...
Il y a un certain nombre de pressions aussi exercées par justement les lobbies.
Énorme, d'où la mise en justice. Et surtout, le vin, c'est quelque chose de sacré en France. C'est une représentation du savoir-faire français. Limite, le côté très... comme les bijoux, la joaillerie, tout ça, ça fait partie du
savoir-faire
artisanal français reconnu internationalement.
Donc deux infos qui se recoupent, qui sont intéressantes, mais je crois que tu as d'autres choses sur Monsanto.
Oui, il y a quelques informations aussi. Je ne vais peut-être pas aller trop dans le détail pour y revenir un petit peu plus tard.
Une petite histoire en Inde, je crois, sur aubergine.
Tout à fait, reprise par Greenpeace aussi, où cette affaire a eu des conséquences assez importantes, parce qu'en fait, tout simplement, il semble qu'il commence à avoir quelques fractures, on va dire, dans la solidité des employés de Monsanto, et notamment au plus haut niveau, le directeur, par exemple, qui vient de démissionner en Inde.
Monsanto Inde.
En Monsanto Inde, bien sûr, hein, c'est une multinationale, donc c'est pas si simple aussi. Et
avec un refus de mise sur le marché de l'aubergine BT, c'était ça le départ de l'affaire.
Il y a pour conséquence, parce que en fait, ce directeur a en gros mis en valeur, a dit que Monsanto avait une tendance à falsifier les données scientifiques, enfin concernant les études scientifiques dont cette fameuse aubergine BT, et ça a eu pour conséquence de déboucher sur un moratoire sur l'aubergine BT, l'aubergine qui est capable de produire ses propres insecticides, donc c'est un organisme génétiquement modifié. Et donc l'affaire est assez...
C'est le début.
Voilà, c'est d'un certain côté, pour les pro-OGM, c'est problématique parce que c'est la première fois. Et pour les anti-OGM, c'est assez nouveau comme, okay. comme situation.
Donc une information intéressante. D'autres informations sur Monsanto à suivre ?
Oui, peut-être plus sur une association qui s'appelle Combat Monsanto. Je pense que tous les anti-OGM connaissent, qui fait toujours une cyberaction pour demander à M. Barroso d'abandonner les OGM, parce que M. Barroso a quelques tendances pro-OGM, même franches tendances, et comme il a été réélu, on a de grandes peurs pour la suite. Du devenir de notre agriculture.
Donc un combat qui continue.
Et voilà. Et il propose, ce site propose une cyberaction pour, je pense, influencer M. Barroso dans ses choix. Enfin, il paraît un peu moins radical ou moins.
Et l'ensemble des députés européens aussi.
Oui, oui, oui.
Pas tout seul, M. Barroso.
Donc,
bref.
Il y a quelques infos qui tournent comme ça.
Alors, une autre info moi, que j'ai trouvée dans le Monde la semaine dernière, et puis en m'y penchant un peu plus dessus, je l'ai vue à pas mal d'endroits ailleurs, c'est la fameuse tribu des Dongriya Kond,
Très jolies infos.
À l'est de l'Inde, qui a lancé un appel à James Cameron. James Cameron, c'est le réalisateur d'Avatar. Tout le monde a tilté, je pense, ouais. Et c'est quand même super intéressant. C'est un peuple autochtone qui estime que, comme la tribu des Na'vi dans Avatar, était empêchée par une compagnie britannique qui s'appelle Vadanta Resources de vivre normalement, puisque cette société souhaitait exploiter la bauxite de leur montagne. Donc, avec l'aide d'une ONG américaine qui s'appelle Survival International, j'essaye d'avoir l'accent, ils ont lancé un appel au secours à James Cameron via le magazine Variety. Et puis, toutes les ONG locales se sont mises ensemble et avec cette tribu pour dénoncer les menaces et les intimidations, dont les membres de la tribu étaient victimes pour quitter leur terre. Et cette semaine, on a vu sur le net qu'Amnesty International avait publié un rapport qui condamnait le comportement de la compagnie minière Vedanta Resources. Donc voilà.
C'est étonnant comme information. Hein. C'est surtout la similitude qui est véritablement
avec
très
proche. Avatar. Et puis une bonne façon de mettre l'information, de la diffuser en tout cas, et de l'utiliser pour faire un battage médiatique pour une cause plutôt intéressante.
Oui, ça fait même un petit peu rêver, parce qu'on pourrait dire ils sont comme dans le film, ils croient en quelque chose, et puis finalement, il y a quelque chose qui s'est passé. Quoi, et je pense que vis-à-vis d'eux, ça doit avoir un certain effet.
Et ce rêve d'Avatar était plutôt intéressant, et du coup, ce rêve des Dongriya Kond nous a un petit peu touchés. Après, la seule chose qu'on n'a pas su, c'est si James Cameron a répondu.
C'est peut-être un peu tôt aussi.
Peut-être. Malgré la réactivité d'Internet. Voilà. Autre information. Alors, j'ai vu que l'Agence française de développement, l'AFD, a lancé début février une grande campagne sur les questions d'inégalité et de développement. Elle s'appelle Le Temps Presse. Et cette campagne, en fait, elle consiste en un film. 8 courts-métrages qui font un film d'à peu près 80 minutes avec 8 grands réalisateurs. Alors, quand je dis grand, rien de moins que Jane Campion, Mira Nair, Gael García Bernal, Yann Kounen, Gaspard Noé, Abderrahman Sissako, Gus Van Sant et Wim Wenders. Ça fait quand même rêver. Et on peut voir ça sur YouTube. L'idée, c'est de sensibiliser le grand public aux 8 objectifs du millénaire pour le développement. J'ai particulièrement bien aimé celui de Jane Campion. Donc, à voir sur YouTube. Vous tapez donc youtube.com, vous tapez Le Temps Presse et vous allez tomber dessus. Une belle chose à voir, je pense.
Oui, une bonne petite information. J'en ai une autre qui est assez exceptionnelle. Peut-être que vous vous rappelez de Brennilis. Brennilis, qui est une des premières centrales nucléaires françaises et qui a eu un accident il n'y a pas très longtemps. Un accident dans une centrale
c'est où, ça
en Bretagne. C'était une des premières centrales qui n'est plus en fonctionnement depuis belle lurette, et c'est surtout le premier modèle de démantèlement des centrales nucléaires françaises, même si ce n'est pas le même type, hein, celle-ci elle est à graphite gaz ou lourde, je ne sais plus exactement, mais du moins ce n'est pas le même type que celle qu'on utilise actuellement, et il y a eu un incident, mais bon, c'est dans l'échelle des accidents, il y a plusieurs niveaux, celui-ci est relativement bas. En gros, ils ont oublié des fûts dans Brennilis qui devaient être évacués au bout d'un certain temps. Ils les ont oubliés, ça a été classé comme un incident. C'est assez intéressant de savoir, sachant que c'est quand même le modèle...
Le plus ancien.
Le modèle, le premier démantèlement réel qui se passe relativement difficilement. Et en plus, s'ils oublient des choses dedans, et encore un effort, s'il vous plaît. Voilà.
Merci Johan. Alors, une autre information, on a voulu en parler, je suis allée le voir, c'est Océan de Jacques Perrin.
On entend beaucoup parler actuellement, oui.
Ouais, on va écouter la bande-annonce.
Un jour, un enfant qui découvrait la mer m'a demandé « L'océan, c'est quoi l'océan ?»
Plein dans la mer là. À la fin, on entend une toux. Alors, c'est pas une erreur, c'est le petit phoque qui regarde le petit crabe qui se déplace d'un œil. Il est un petit peu endormi, il tousse. Moi, j'ai trouvé ça beau, j'ai trouvé ça touchant. J'ai retrouvé mes habits les bêtes. J'étais toute contente. J'étais toute contente parce qu'en fait, je me rappelais le Jacques Perrin qui avait réalisé Himalaya, l'enfance d'un chef, le peuple migrateur. Avec le battage médiatique qui en a été fait, j'avais envie d'y aller par curiosité, histoire aussi de pouvoir parler de quelque chose que je connais, parce que c'est toujours mieux. Et quelque part, j'ai quand même un petit peu été déçue. Bon, après, il y a un certain nombre de chiffres. C'est 2 ans de préparation, 4 ans de tournage, 50 sites, 70 expéditions, 50 millions d'euros. On peut en faire des films sur Arte à ce prix-là. Ça avait quand même un petit côté suspect. Là, on est dans les moins. Je vais d'abord exposer les moins, après je vous exposerai les plus. Il y en a quand même quelques-uns. Alors pour les moins, évidemment, c'est le début du film, c'est le côté suspect dont je parlais tout à l'heure, c'est les sponsors, les paradoxes du financement. Est-ce que Océan est un alibi marketing ou est-ce que c'est un véritable engagement ? Le film commence, il n'y a pas eu 2 minutes de film, on a déjà Veolia Environnement, Total, toutes les institutions publiques des ministères, conseils généraux, etc., du Morbihan et j'en passe. On essaye de se donner bonne conscience. Au départ, c'était assez mal parti. Finalement, ça s'est peut-être un petit peu arrangé. On reste dans les moins. La musique, effectivement, on est sur une grosse prod. Hein. Donc la musique, c'est Bruno Coulet. Bruno Coulet, je ne sais pas si tu te rappelles, Johan, c'est le gars qui a fait la musique des choristes.
Ah, d'accord.
Bon, voilà, c'est gentillé, mais bon, c'est pas exceptionnel non plus. Alors, néanmoins, il y a quelques musiques qui sont relativement sympas. Notamment, il y a des solos de basson qui, moi, m'ont particulièrement... touché, voilà, ça j'ai trouvé ça beau.
Est-ce que ça rappelait pas le chant des baleines ?
Alors il y a eu du chant des baleines en vrai à certains moments. Alors le seul truc c'est que je sais pas si la bande sonore était vraiment le son de la baleine qui était filmée ou si c'était des choses qui étaient rajoutées.
D'accord.
Ce que j'ai vu aussi sur des crabes où on entend le bruit du sable, ça c'est plutôt sympa, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Je me suis demandé s'il n'y avait pas des rajouts.
Ah, c'est possible. Mais est-ce que tu as d'autres infos sur ce film ?
Alors, j'ai encore des moins. Alors, il y a un truc mais qui m'a exaspéré.
C'est des gros moins ou c'est quand même juste des moins ?
Il y a des gros moins, mais après je passerai au plus parce que je trouve qu'on peut pas non plus voir les choses en noir ou en blanc. Ce qui m'a pas plu, c'est le discours moralisateur de la deuxième partie. C'est quand même un film qui dure 2 heures. Jacques Perrin avec son petit-fils dans un espèce de musée qui peut ressembler au muséum d'histoire naturelle, avec un gamin qui est un petit-fils a priori qui est complètement inexpressif, voire même à la limite dépressif. Et là, il nous balance un discours, on n'en a pas besoin. Des commentaires, moi, j'en avais pas besoin. Je pouvais tout à fait me suffire à ces belles images de paysages, les animaux. Enfin, je trouvais ça plutôt agréable. J'ai pas besoin de ce discours moralisateur. Alors peut-être qu'après les sponsors. Avait une demande en particulier. Un autre moins, à un moment, il y a une reconstitution de massacre. On voit des gens qui enlèvent des ailerons de requins. C'est parfaitement inutile. Et là, on retombe dans les ressorts classiques des grands médias, enfin des médias grand public, du sang, du sexe, etc.
Ne voulait-il pas peut-être rebondir sur le film Le Seigneur des Mers, où justement on voit ce massacre des requins, ce qui fait que ça fait une espèce de liaison entre les films, vu que c'est aussi un problème.
Oui, alors peut-être qu'il y avait une allusion, mais à quoi ça sert ? Ça n'apporte rien.
Ça choque par rapport à la sérénité que génère ce film.
Mais on est en plein dans le docu-fiction, mais j'en ai pas besoin. C'est, enfin, je sais pas, mais le docu-fiction, on est sur M6. Là.
D'accord.
Donc, voilà.
Y a-t-il d'autres moins ?
Alors non, j'ai pas trouvé d'autres moins, mais là, quand même, j'ai un petit peu égratigné quand même, Océan. Alors, sur les plus, certes, on a plutôt de belles images. Quand même, je suis assez impressionnée à certains moments, même si les cadrages, je suis pas toujours à fond. C'est dommage qu'on visite plein de pays, on voit plein d'endroits, mais on sait jamais où c'est. Et ça, il aurait peut-être fallu une petite. Je crois qu'on le voyait dans le peuple migrateur.
Histoire de protéger les lieux aussi, parce que il y a beaucoup de lieux actuellement.
On peut dire ça, peut-être. Ouais.
Je crois que c'est au Canada ou Toronto, dans la côte. De ce côté-là, il y a les baleines qui viennent régulièrement et qui sont.
Et du coup, on préfère pas en parler.
Voilà, et c'est une activité touristique à plein temps et peut-être un peu trop, enfin, selon les biologistes sur place. Donc, il a peut-être voulu aussi protéger ces lieux magnifiques qui deviennent de plus en plus rares.
On
aussi,
va dire évidemment. Que c'est pour ça. Alors.
C'est une.
Ouais, non, mais c'est une explication. C'est une pourquoi pas, ouais. Alors, après, les plus, c'est que certes, c'est un film, une grosse prod, gros budget, etc. L'avantage, quand même, aussi, moi qui aime bien les films d'art et d'essai, c'est aussi que ça passe pas seulement dans les cinémas d'art et d'essai et sur la chaîne Planète. Ça veut dire que c'est un film qui est accessible à tous. Et ça, je trouve que c'est plutôt un avantage.
Il va donc passer sur la chaîne Planète, sur la télé ?
Non. Justement, je trouve qu'il fait pas partie des films qui passent sur des chaînes spécialisées, accessibles pas à tous les publics, ou dans des cinémas d'art et d'essai dans lesquels tous les publics ne vont pas. Et je trouve ça plutôt bien que ça passe dans des UGC, etc. Et c'est plutôt un avantage, à mon sens.
D'accord.
C'est accessible à tous. Après, quand j'y suis allée, c'était un mercredi, c'était hier, il y avait plein d'enfants dans la salle, ils ont écouté jusqu'au bout, ils se sont bien marrés, les animaux les faisaient rire quand ils toussaient, il y avait tout, c'était un vrai contact avec la nature, il y avait des combats entre animaux, etc. Et ils ont regardé ça avec beaucoup d'attention, ils ont tenu 2 heures, et j'ai trouvé que c'était quand même super.
Même la partie docu-fiction, avec les requins attaqués, ça serait...
Est-ce alors ça, je sais pas comment ils ont. Là, ils sont plutôt planqués a priori. Mais comme moi, je me planquais aussi parce que je voulais pas voir.
Visiblement, ça choquait.
C'était mes oreilles qui étaient plutôt en alerte et voilà. Enfin, à ça, j'ai pas tellement fait attention, mais grosso modo, ils suivaient plutôt bien. Ils riaient, ils étaient attentifs et ça, c'était super. Alors après, il y a eu un truc super. Ça m'a rappelé ça en fait. Ah, c'est pas ça.
Mais c'est pas grave, on peut le laisser, c'est un slogan qui est marrant. On le passera tout à l'heure. Voilà.
Voilà, on y est.
Je suis sûr que vous allez vous en rappeler.
Ça me dit quelque chose, Johan, ça.
Oui. C'est
alors les émissions du dimanche soir, animalières.
Sur les quelques chaînes qu'on avait.
Eh ouais.
Et pas trop de rétro parce que...
Et là, en fait, voilà. On s'en lasse pas, hein. Et en fait, bêtement, je me suis retrouvée... il y a maintenant... 25, 30 ans, des émissions animalières. Moi, j'ai l'impression qu'il y en avait beaucoup plus à cette époque-là et que maintenant, il n'y en a plus tant que ça, à part effectivement sur des chaînes spécialisées. J'ai trouvé ça vachement sympa. Il y avait Les Animaux du Monde, il y avait l'Odyssée sous-marine du commandant Cousteau. Je me rappelle que le dimanche soir, je regardais le commandant Cousteau dans sa Calypso, etc. Et ça m'a aussi rappelé un autre film qui était très sympa, qui était Atlantis. Alors, je ne sais pas si tu l'as vu, c'était un film de Luc Besson.
Je ne l'ai pas vu, pour dire vrai, mais par contre, j'ai entendu un extrait avec la danse des Rays et Maria Callas.
Et en fait, voilà,
c'est magnifique.
Moi, c'est ça que magnifique. Je me rappelais. Et à côté, bah, je trouve que Bruno Coulet a qu'à bien se tenir. Quoi. Et j'avais envie de vous la faire écouter, parce que les Rays qui dansent sur la Callas, c'est extraordinaire. Quoi. La musique de Maria Callas, fabuleux.
On l'entendra tout à l'heure.
On l'entendra tout à l'heure, mais...
Ça vaut le coup, on vous le... Ah.
Alors, ne vous y trompez pas, vous n'êtes pas sur Radio Classique.
Et c'est ce que j'allais dire, je trouve que c'est bien, mais ça manque de guitare, ça manque de rock'n'roll, de trash.
Ah non, mais là quand tu vois les Rays qui dansent, t'as pas besoin de rock'n'roll et t'es complètement BA, et je trouvais ça super.
C'est en harmonie totale.
Et, vraiment magnifique. Et en fait, ça faisait penser aussi à cette harmonie avec la nature, etc.
Donc, deux films à voir, en fait. Hein. Océan et Atlantis.
Ouais, Atlantis pour mémoire.
Et en se méfiant, parce que apparemment, Océan, c'est un transporteur temporel qui vous fait rajeunir, revenir en arrière, ramène vers vous l'enfance. Alors, ne le regardez peut-être pas deux fois, parce que ça pourrait peut-être faire des dégâts. Mais...
Non, après, on ira sur le divan, on se débrouillera. Autre info, parce qu'on est resté longtemps sur Océan dans nos délires.
Ils ont le coup, apparemment, hein, de toute façon.
Finalement, je pense qu'il faut aller le voir. Après, on en pense du bien, on en pense du mal. Voilà. Autre info, il y a eu une chose intéressante ce week-end sur TV5 Monde qui a lancé une émission plutôt sympa qui s'appelle Coup de pouce pour la planète. C'est une émission hebdo qui est consacrée au développement durable. Alors la première, c'était dimanche dernier à 13h47, je crois. C'est ce qui était marqué sur le site, on va dire 13-14h. 13h45, l'invité, c'était Marc Jolivet. Et le principe, c'est que l'invité réagit chaque semaine aux différentes rubriques de l'émission. Les prochains invités sont quand même plutôt intéressants. Dimanche prochain, le 21, c'est Hubert Reeves.
Oui, on passe dans un style à un autre. Marc Jolivet a... qui était l'invité de la
première, a donné l'impulsion.
A donné cette impulsion et justement a vraiment relevé l'aspect il faut rester positif pour parler de humour, enfin aborder tout ça avec beaucoup d'humour.
Tout à fait, ouais. Et éviter le catastrophisme écologique dans lequel on peut tomber assez facilement.
Naturellement, parce que beaucoup de
naturellement, c'est le mot. Voilà.
L'émission est à voir, elle est toujours visible sur le site aussi. Sur TV5 Monde, et c'est vrai que ça vaut le coup de voir ce premier lancement et pour se donner une idée et peut-être continuer à suivre cela. Quoi.
Voilà. Alors maintenant, on va passer à l'actualité des associations. Tu les connais bien, Johan. La première association, je crois que tu allais voir un peu ce que faisait WWF en ce moment.
Oui, WWF fait beaucoup de partenariats, mais je n'ai pas trouvé énormément d'actions particulières. Sur leur site, j'ai vu quelques infos intéressantes.
Il n'y a pas une histoire d'une opération...
Opération Panda.
Excellent.
Opération
c'est
secrète.
Quoi ça? J'ai trouvé ça sympa, non? Il n'y a pas une histoire de papier mâché ou...
Oui, Opération Panda. Oula, secret de défense. Et d'ailleurs, vachement secret de défense, parce que vous vous retrouvez avec 1600 pandas en papier mâché autour de vous. Et c'est une opération que lance WWF qui a pour but de rappeler au bon souvenir leur symbole, le panda, qui est en voie de disparition, mais bon, qui est sur la liste des animaux en cours de réhabilitation. Et donc, ils ont créé 1600 pandas en papier mâché que vous pouvez faire venir dans votre ville pour être photographié et en faire une exposition.
Il y a un côté artistique qui est plutôt assez sympa.
Il y a un côté artistique, ça amuse apparemment beaucoup les enfants.
Ludique.
C'est assez. Il y a quelques photos sur le site où vous pouvez les voir devant la Tour Eiffel et dans d'autres places de grandes villes. Parce qu'apparemment, c'est une
exposition. Ça rappelle un peu les vaches, là.
C'est... Oui.
Ces vaches qui allaient un petit peu partout, à Paris, à Berlin.
Ah, ça, je me rappelle pas.
C'était chouette, ça aussi. Ouais. Alors, il y avait une autre chose intéressante sur...
Avec WWF, vous pouvez adopter un ours blanc. Alors,
c'est pratique, ça, à la maison, sympa.
Effectivement, c'est intéressant comme idée, parce qu'un ours blanc, c'est sympa, nounours, on a envie de se lover contre, c'est mignon, etc.
Voilà. Dans les Walt Disney. Voilà.
Eh bien, WWF vous propose d'adopter un ours blanc. Symboliquement, bien sûr.
Et c'est quoi alors concrètement ? On donne une somme d'argent pour...
Voilà, et ça permet la sauvegarde des ours blancs et de donner de l'argent pour WWF aussi, pour continuer à les encourager dans leur combat.
Très bien. Des infos Greenpeace peut-être maintenant ?
Greenpeace, comme d'habitude, présent sur la scène médiatique. Dans ces campagnes, forêt, OGM, énergie, climat, océan avec la bataille du thon rouge, qui n'est pas gagnée, enfin dans 18 mois, enfin, peut-être. Ils ont fait une petite opération il n'y a pas très longtemps, une opération consistait à aller chez les restaurateurs qui avaient encore à leur carte du thon rouge. A priori, ça s'est bien passé. Sur cette question, je crois que ce n'était pas terminé. Leur campagne avait été bien lancée, c'était très intéressant. Notamment, ils ont fait une espèce de lobbying, d'affichage, un peu... Je ne sais pas si c'est passé à la télé, mais ils avaient placardé pas mal d'affiches du côté des ministères. Parce que ça ne tournait pas très rond, avant de faire que le ministère de l'Environnement fasse son annonce. Et donc c'était bien engagé, et donc maintenant on attend plus de fermeté dans cette décision, parce que 18 mois hein, pour l'inscrire cette espèce à l'annexe, ça va être un peu long. Et
on attend des décisions politiques après aussi.
Ouais. Oui, ça ressemble plus à une décision pour gagner du temps, plus qu'autre chose. Donc voilà.
Très bien. Les Amis de la Terre, peut-être ?
J'ai encore du Greenpeace, toujours très actif avec le nucléaire, bien sûr. Évidemment, c'est leur origine hein, aussi. Le 16 février 2010, ils ont fait une nouvelle action contre l'exportation des déchets nucléaires en Russie. La Russie n'est pas une poubelle. Où trois activistes se sont enchaînés au portail de l'usine Areva à Tricastin dans la Drôme. Et d'autres militants se sont enchaînés à un cône en béton sur la voie ferrée. Toujours dans le but de stopper ce fameux convoi qui transite les déchets dits recyclés. Et qui ne reviennent pas en majeure partie, donc des déchets qui partent vers la Russie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on connaît même le nom du capitaine du bateau, que vous pourrez lire sur le site. Il s'appelle pas Nemo, c'est bien sûr un navire russe, donc un capitaine avec un nom russe, et qui va partir en direction de Saint-Pétersbourg.
Il s'appelle comment ?
J'osais pas le dire parce que je n'ai pas le russe, donc je risque d'accrocher sévèrement le nom.
Mais non, t'attendais au tournant, hein, on connaît le nom du capitaine.
Capitaine, je pense que ça veut dire capitaine. Kuroptev.
Ah, oh, c'était pas si dur, bravo Johan, merci. On peut peut-être rester sur le nucléaire, je crois que tu as des infos sur l'association Sortir du Nucléaire.
Sortir du Nucléaire, oui. Alors le temps de remettre les mains dessus. Tu aurais pas une petite info de dernière les fagots?
Alors si, moi j'ai une info qui est assez sympa, c'est le spot que propose l'ADEME. L'ADEME, c'est sûr l'agence avec Tarzan, c'est génial. C'est sur la déforestation, vraiment à voir. L'idée du spot, c'est vous imaginez Tarzan sans jungle. Et alors il y a une chose que j'avais pas compris, c'est que tout le spot il est en anglais. J'ai pas compris pourquoi ça devait être en anglais.
C'est vraiment étrange. Et j'ai bien peur que ce soit un petit peu une constante de plus en plus avec l'Europe qui nous met des.
Ce qui est en anglais, c'est les sons. Il y a une voix en anglais et il y a des textes écrits en français.
Les sous-titres.
Alors peut-être que oui, c'est lié à l'Europe, j'en sais rien, mais c'est assez bizarre. Alors peut-être que. Au départ, je me suis dit.
La même chose pour les nanos aussi. Un film européen de promotion des nanos. Qui était
Alors là, moi, je m'étais quand même donné une explication, mais est-elle valable? J'en sais rien. Moi, je m'étais dit que c'était pour l'histoire de Greystoke, et Greystoke, il est quand même anglais, donc on a voulu garder la langue d'origine, mais à part ça, j'ai pas vu beaucoup d'autres explications.
Effectivement, c'est une explication. Oui.
Parce que même les Jeux Olympiques, ça se passe en français encore. Et en anglais.
De Coubertin.
Non, en fait, toujours est-il que du coup, on n'a pas vraiment d'explication, si ce n'est peut-être l'uniformisation, mais c'est un spot de l'ADEME qui est diffusé en France. De toute façon,
c'est pas grave, faut le voir parce que c'est marrant.
Il est super drôle.
Surtout quand il repart en arrière sympa. Et qu'on comprend pourquoi.
Il cherche Jen. C'est plutôt drôle. On revient à Sortir du Nucléaire.
Oui, Sortir du Nucléaire. Donc. Qui nous parle de quelque chose d'intéressant, stockage des déchets à Corbeil-Essonnes, pardon, en Allemagne. Encore une affaire de falsification sous pression, qui date, bien sûr, c'est une info qui date de. L'info, elle, date du 9 septembre 2009, mais les faits remontent dans les années 80. Où le chancelier allemand a multiplié les pressions sur les scientifiques pour qu'il approuve le stockage des déchets radioactifs à Gorleben. Ainsi, tous se sont succédés des incidents depuis lors. Et il va y avoir un reportage sur Arte, s'il n'est pas déjà passé, sur le sujet. Donc, voilà, ça donne un petit peu le ton. Une autre information très importante, celle-ci aussi, mais c'est totalement actuelle, c'est celle sur la nouvelle loi qui va permettre de mettre des éléments radioactifs, de la matière radioactive, faiblement radioactive, exactement dans des biens courants comme le béton, certains aciers, etc. Donc vous pourrez vous retrouver avec une maison légèrement radioactive ou avec une lampe de bureau qui va rayonner aussi.
C'est quoi cette loi ?
C'est une loi, cette loi, qui dépend de... Je n'ai pas devant les yeux exactement. Mais en gros, elle était bloquée depuis longtemps, sous l'impulsion de la CRIRAD.
Et on la ressort des tiroirs.
Et elle a été ressortie en mai 2009, je crois. Surprise.
Elle sera votée pendant l'été, en plein mois d'août.
Alors, apparemment, je ne pourrais pas en dire plus. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a une campagne de la CRIRAD accompagnée du réseau Sortir du Nucléaire pour bloquer cette situation, parce qu'on n'est pas sûr que tout le monde soit réellement au courant.
Donc parlons-en.
Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que l'AIEA n'a pas donné un accord.
L'Agence internationale de l'énergie atomique. Oui.
Un accord favorable.
Je comprenais plus ta langue, Johan.
Oui. C'est dans le domaine du nucléaire, c'est le grand chapeau.
Ok. Alors, j'ai une autre information aussi liée à Vélorussion, en fait. Vélorussion, c'est un collectif d'utilisateurs de vélos qui propose aux cyclistes et plus généralement à toutes les personnes qui sont non motorisés, de se regrouper chaque mois à un lieu donné. Alors, à Paris, ça se passe le 6 mars, place du Châtelet. Le thème de ce mois-ci, parce qu'il y a un thème tous les mois, c'est l'automoto n'est pas une fatalité. Donc, voilà. On va écouter un petit jingle.
Oui.
Si c'est pas les écolos que ça met l'eau,
C'est chaud comme slogan, dis donc. Pour une Vélorussion, ça risque de, ouais, de partir
mais c'est,
en cacahuète.
C'est plutôt sympa comme ambiance. Et, on vous invite vraiment à y aller parce qu'il y a vraiment ce côté, bon, un peu dans Vélorussion, il y a quand même l'idée de révolution, etc. Mais en même temps, l'idée de faire changer les choses et dans un climat plutôt sympathique.
Puis s'il fait beau, Paris, c'est magnifique. En vélo, ça vaut le coup.
Exactement.
Ça vaut vraiment le coup. Alors si on peut le faire en plus à plusieurs et tranquillement, je suppose qu'ils vont bloquer la circulation pour ce genre de choses.
Tout à fait, ouais.
Donc là, le vélo est roi.
Et c'est, oui, tout à fait, ouais. C'est vraiment sympa.
Bon, voilà. Peut-être qu'on y sera alors.
Alors une autre info aussi sympa.
Je vais peut-être revenir sur l'info précédente rapidement parce que j'ai le texte sous les yeux. Le 5 mai, sur la relativement importante, hein, parce que quand même le nucléaire, c'est pas quelque chose de simple. Je vais faire très rapide. Le 5 mai 2009, un arrêté interministériel a instauré une procédure de dérogation à ces interdictions, une procédure particulièrement laxiste. Cet arrêté a été publié en dépit d'un avis défavorable de l'autorité de sûreté nucléaire, donc c'est l'ASN, pas l'AIEA, pardon. 5 produits seulement sont exclus des dérogations et protégés des contaminations radioactives, les aliments, les produits cosmétiques, les parures, les jouets, les matériaux en contact avec les aliments et les eaux. Et le 10 juillet 2009, la CRIRAD a adressé au Conseil d'État un recours pour excès de pouvoir. La demande d'annulation de l'arrêté est basée sur des arguments de légalité interne et externe. Et en complément de cette démarche, la CRIRAD appelle les consommateurs et les associations à se mobiliser et à demander aux autorités le maintien des interdictions et l'abrogation de l'arrêté du 5 mai 2009.
Ouais, donc c'est intéressant d'être revenu dessus. C'est pas une loi, c'est un arrêté,
voilà,
et un recours pour excès de pouvoir.
Suite à une dérogation dont on n'est pas sûr qu'elle était consciemment... dont on n'est pas sûr que les ministres en question... Enfin, les ministres...
Aient perçu toute la portée, en fait.
Aussi, ils doivent se... Enfin, ils sont payés. Mais du moins, on n'est pas sûr qu'ils aient réellement signé de leur propre chef. On sait que ce ne sont pas les ministres qui ont signé, du moins. Voilà.
D'accord.
Donc c'est effectivement quelque chose d'important, je pense.
D'accord. Bon, moi, je restais dans ce climat convivial de la Vélorussion.
Revenons-y, c'est plus positif.
Revenons-y, c'est quand même sympa. Il y a un nouveau resto bio d'insertion qui a ouvert à Paris, qui s'appelle Respectable. Respect santé, apostrophe table. Alors, c'est un restaurant solidaire, il conjugue développement social, environnemental. Enfin, je trouve que c'est super sympa. C'est 9 rue de la Tour d'Auvergne, dans le 9e à Paris. Vous pouvez aller trouver des infos sur www.respectable.fr. Et l'ambiance, enfin, j'aime bien cette idée aussi de conjuguer un peu de rassemblement, de conjuguer un peu le développement humain, la solidarité, l'échange, etc. Et
j'ai une autre info qui peut être intéressante aussi dans cette même idée. Ce sont les initiatives océanes de l'association Surf Rider. Ce sont les 15e, c'est les 15e initiatives Océane. 15 ans que l'association Surf Rider organise le nettoyage des côtes. Hein. C'est une association surf, mais les surfeurs sont relativement sensibles à l'état de l'eau et des côtes. Hein. C'est pas très marrant de surfer avec des déchets. Donc ce sont les premiers acteurs et observateurs de l'état des océans proches. Hein. Et donc cette association organise régulièrement des activités de nettoyage. Et là, vous pouvez vous rendre sur leur site de Surfrider. Alors vous tapez Surfrider sur Google, Yahoo, machin chose. Vous trouverez très très facilement ou Initiative Océane avec S.
Initiative et à Océane.
Voilà, vous aboutirez rapidement sur le site qui résume l'ensemble des actions organisées ce jour-là. Et il y en a un peu partout, il y en a même beaucoup, même à proximité de Paris, mais c'est plus nettoyage du bord de Seine. Mais vous en avez aussi sur la Manche. Vraiment, c'est aussi une bonne occasion de se réunir pour faire quelque chose d'intéressant. Et en plus, s'il fait très beau, ça peut être dans des très bonnes
conditions.
C'est très constructif. Surf Rider a fait la publicité de cette... la publicité a mis en valeur cette nouvelle initiative Océane en mettant les plus et les moins. Les plus, c'est que ça fait 15 ans que ça s'organise, qu'il y a de l'action, qu'on met de plus en plus le spot sur ce problème-là.
Les moins.
Et le moins, j'aurais dû commencer par le moins, pardon. C'est que ça continue, le problème continue et qu'il est difficile de le réguler. Et que.
Et c'est, du coup, c'est aussi pour ça qu'il y a de plus en plus d'actions.
Voilà, et c'est, ça reste toujours un bon moment à partager. Voilà.
Ok, alors moi j'ai deux petites infos sympas, petites actus. J'ai lu deux livres. Enfin, moins deux livres qui m'ont paru intéressants. Alors, il y en a un, je suis particulièrement en retard. Ça s'appelle Autobio, c'est une BD. C'est de Cyril Pedrosa, je ne sais pas si tu connais, Johan. C'est Fluide Glacial qui édite ça. C'est super drôle, en fait. C'est un peu l'autobiographie, en l'occurrence, de Cyril Pedrosa, qui est père de famille, raconte sa vie, se met en scène avec sa femme, ses enfants, dans des histoires assez courtes. Le maximum, c'est une ou deux planches. Alors, on retrouve les marchés bio, les écoles freinées, le petit commerce de proximité, le recyclage, lavage à la noix, la Kangoo, etc. Enfin, il y a une part aussi de recul par rapport à cette vie-là. Enfin, l'idée, c'est que ce type-là, il a un entourage qui n'est pas vraiment réceptif avec ses projets de renouer avec la terre, avec l'écologie. Et les personnages d'Autobio se posent plein de questions, et notamment quand est-ce qu'on peut être à la fois citadin, écolo-pratiquant et avoir une bonne conscience. Autre question, comment accommoder sa gauchitude, sa boboïtude d'une certaine façon, convaincue et le confort moderne. C'est pas si simple. En gros, Autobio, c'est drôle, c'est facile à lire, c'est fresh. C'est frais, on peut le dire en français. Et lui-même, il définit son album comme un livre drôle sur l'engagement. Il a obtenu un prix, je crois qu'on appelle Tournesol, c'était en 2009 à Angoulême, donc un petit peu de retard.
D'accord.
Alors le dernier album qui a été primé, prix Tournesol 2009 à Angoulême, je ne l'ai pas lu, ça s'appelle Climax. Ça te dit quelque chose ?
Pas du tout, je suis un peu overbooké sur plein de choses, et là j'avoue...
Bon, bah, peut-être à voir.
J'avoue mon ignorance. Alors, est-ce qu'on pourrait lancer le deuxième slogan, éventuellement ?
Non, juste avant, peut-être, j'ai un autre bouquin qui m'a paru particulièrement intéressant.
Oui,
là, c'est plus de la BD, c'est Michel Mavesoli, Matrimonium, petit traité d'écosophie. C'est génial. Enfin, moi, j'ai trouvé ça super. C'est le sociologue postmoderne qui part d'un constat. Ce constat, c'est le suivant. C'est que le mépris de la terre et la dévastation du monde... sont le résultat de la modernité qui mobilise les énergies individuelles, les énergies collectives, et prendre soin de la terre-mère, en faire le fondement de tout un ensemble, voilà l'inversion vers laquelle on se dirige. Moi, j'ai adoré, il est un peu contre le catastrophisme qu'on entend un petit peu partout, c'est super bien fait, voilà. Alors, il y a toute une mutation un peu anthropologique, d'une certaine façon, qui est super. Il veut revenir à une société tribale qui soit un peu plus en harmonie avec la nature, où il y ait développement de nouvelles solidarités. Et il parle de la nécessité de retourner à l'essence des choses, de réinvestir quelques archaïsmes, entre guillemets, et que je trouve plutôt sympa. Le peuple, la nature, les territoires, les sentiments, l'humeur... Il y a un truc génial dans ce livre aussi, à un moment, il cite Pina Bausch et Merce Cunningham. Pina Bausch, moi, je me rappelle la chorégraphe, danseuse, son spectacle l'année dernière au Théâtre de la Ville, Wiesenland. C'était un vrai bonheur. Et c'est un retour à la Terre sans être une régression. C'est ce à quoi nous invite Michel Mavesoli. C'est super à lire, ça ne se lit pas dans le métro. Il y a 80 pages, ça se lit vite. Et c'est génial.
Ok. Bon, mais l'émission va se terminer tout doucement. Comme elle a commencé. C'était Zoom Écologie. Et bientôt, nous aborderons un autre thème, celui des nanotechnologies, un thème très récurrent. On aurait pu vous parler des nombreuses conférences qui vont avoir lieu.
Il y en a un paquet. Hein. Voilà. Il y en a peut-être une dont on peut parler. C'est mardi prochain, métro Corentin-Cariou, 14-16 rue de Charente, à l'appel de la coordination des intermittents et précaires, les nanotechnologies à la tyrannie technologique. Je pense que c'est intéressant d'y aller. Il y en a beaucoup d'autres. Il y a un thème sur Arte le 9 mars et on a toute une thématique là-dessus le 18 mars prochain.
Oui, tout à fait. Avec peut-être un invité prépondérant. Donc on vous invite à écouter l'émission.
Déjà, il y a beaucoup d'actualités.
Le nanotechnologie, c'est un domaine qui touche tous les autres domaines. C'est, Donc,
Il y a un débat qui a été lancé national avec une commission présidée par Jean Bergogneau qui se clôt le 23 février prochain. Voilà. Et il y a plein de débats qui sont lancés, qui sont arrêtés à Orsay, à Grenoble, etc.
Et peut-être on aura le temps
etc.
de vous expliquer pourquoi ça s'est mal passé, le débat officiel.
Voilà. Au 18 mars.
Au 18 mars. Au revoir.
Allô, Gargi Boy là. Moi j'aime la DLZ 23 là, mais on quitte mesdames là.
Imposez ma vingt genou.
Maintenant non, man, check him tout de suite, man, parce que là, il y a un bon paquet de balles là, un bail positif, man.
Ma vingt genou.
Ok, yes, sir.
Nous dans la vie,
qui s'allie?
Fanatique, yo, c'est nous, yo, les bouillons, cadencés.
Bon, jeune, j'ai rien.
Cherchez émotion, cherchez feeling avec distraction. Nous pas jamais fatigués, nos musiciens. Ouais, on sait faire musique pour porter plaisir, pour faire tout le monde sourire. Ouais, ouais.
Nous dans la vie.